7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. En cette période de rentrée universitaire en France, qu'est-ce qui change pour les étudiants étrangers non européens? En avril dernier, le gouvernement avait publié dans un arrêté des hausses des frais d'inscription sans précédent pour tous les étudiants hors Union européenne, composés à 45% d'Africains, il faut bien le dire. La licence passait donc de 170 euros l'année à 2770 euros et le master passait de 243 euros à 3770 euros. Si vous n'avez pas tout à fait bien suivi le ticket de caisse, retenez que le prix du master est en gros multiplié par 15. C'est totalement inédit dans l'histoire des universités en France où tout le monde paye le même prix pour un même diplôme national. Alors depuis, sous l'effet des protestations, la réalité dans les universités est beaucoup plus compliquée, plus souple. Le ministère de l'Enseignement supérieur a temporairement relâché la pression et du coup, je veux dire qu'on n'y comprend plus grand-chose. Quelles sont les universités qui appliquent des hausses de prix? Qui sont les étudiants touché par cette réforme? Que va-t-il se passer aussi pour les années suivantes, c'est-à-dire la prochaine rentrée universitaire 2020? Nous allons en discuter avec nos invités. Bonjour Dominique Villoukbi.
Bonjour.
Vous êtes vice-président chargé des relations internationales de l'université Paris 8 Saint-Denis. C'est toujours l'une des universités françaises qui accueille le plus d'étudiants étrangers?
On n'a pas absolument tous les chiffres, mais disons que toutes nations confondues, on a en moyenne 30% d'étudiants étrangers. Et ça, depuis le début, quand Paris 8 était à Vincennes.
François-Olivier Sess est également avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président chargé des relations internationales de l'Université de Lille. Et je remercie au passage France Bleu Nord à Lille pour la liaison technique, puisque vous êtes donc bien à Lille en ce moment même. Orlane François, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'AFAGE, c'est la Fédération des associations générales étudiantes. Vous êtes le syndicat majoritaire à l'heure actuelle. En fin d'émission, on aura comme chaque vendredi la chronique de Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre. Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. Et quant à vous, les voisins, si vous avez un projet d'études en France, c'est le moment non seulement d'écouter l'émission, mais de poser vos questions. 33 1 84 22 71 71. Et pour ceux qui sont déjà sur le territoire français, bien évidemment, vous avez aussi la parole. 33 1 84 22 71 71. C'est le téléphone fixe, c'est aussi le WhatsApp pour nous appeler gratuitement. Je vous lis quelques messages postés sur les réseaux sociaux. Diaby est à Bamako, enseignant. Là, c'est juste son point de vue. Il nous dit que l'augmentation des frais d'inscription, c'est un véritable déclin pour la France. Jadis, maître de l'éducation sociale, comparativement aux pays anglo-saxons. Brahim est à Abéché au Tchad. Il nous dit qu'il a obtenu son bac cette année. Il voulait candidater pour une université française. Vu la situation, nous écrit-il, j'ai décidé de rester au Tchad. Vous nous téléphonez 33 1 84 22 60. 71, on a envie d'en discuter de vive voix et en direct avec vous sur RFI.
7 milliards de voisins.
On est en forme.
C'est l'attitude qui gagne.
On accueille un voisin, Amadi, sénégalais, étudiant, 21 ans. Bonjour Amadi, vous êtes en France?
Bonjour.
Amadi, soyez le bienvenu. Vous êtes un étudiant inscrit à Paris-Nanterre, c'est bien cela?
Effectivement, c'est ça. Je suis un étudiant sénégalais. Je me suis inscrit en licence 3 à l'université Paris-Nanterre.
Mmh. Donc, ça veut dire que vous avez démarré votre licence avant au Sénégal?
Oui, j'ai fait 3 années au Sénégal et cette année aussi, je vais faire la licence 3 ici en France.
C'est ça. Vous refaites la troisième année, mais en France. Quelle est votre situation là? Cette année, vous avez payé les frais d'inscription, les mêmes que tout le monde pour l'année de licence?
Oui, c'est ça. Cette année, j'ai payé 170 euros, comme tout le monde. Donc, j'ai bénéficié d'une exonération qui se passe actuellement dans mon université à Paris-Nanterre.
Mmh. Non, mais là, vous avez cette année payé donc le même tarif que tout le monde parce que votre université n'a pas appliqué la hausse demandée par le gouvernement français. Sinon, vous auriez dû payer 2770 euros.
En effet, c'est ça. Depuis que la loi a été votée, on a dit que les frais d'inscription sont passés hautement à hausse. Donc, mon université, jusque-là, n'a pas encore appliqué cette loi-là. Donc, c'est ce qui me permet de bénéficier d'une exonération. Du coup, j'ai payé la même somme que tout le monde.
Alors, ce n'est pas une loi, hein, c'est un arrêt. Mais enfin, je vous corrige parce que je dois le faire. Mais ne vous inquiétez pas, ça revient au même pour vous, Amadi. On est bien d'accord. Mais du coup, aujourd'hui, Amadi, dans quel état d'esprit vous êtes?
Bon, en tout cas, cette année, on a commencé. On espère continuer jusqu'à la fin de l'année certainement. Mais pour ce qui est de l'année prochaine, rien n'est encore sûr. Parce que du coup, à tout moment, cette année peut être appliquée dans nos universités. Ça ne dépend pas de nous. Mais quand même, on observe un certain optimisme. Parce que cet optimisme, il est alimenté par un certain nombre de facteurs. Vous l'avez tous constaté, la loi, l'arrêt du moins, n'a pas été appliqué par un ensemble d'universités.
Exact,
et c'est ce qui prouve qu'aujourd'hui, cet arrêt n'a pas sa raison d'être. Et ensuite, ce qui ressort, c'est que cet arrêt est purement discriminatoire parce qu'elle exclut un certain nombre de gens du fait de leur nationalité ou de leur appartenance à une certaine situation sociale et économique. On leur prive de leur droit à l'université. Et ce qui est discriminatoire. Et vous conviendrez tous avec moi que la discrimination...
Discriminatoire par rapport aux autres étudiants, c'est-à-dire par rapport à un étudiant allemand que peut-être vous côtoyez en cours ou un étudiant français.
Oui, c'est par rapport aux autres étudiants.
Comment ça se passe pour vous, là, en dehors du sujet qui nous préoccupe, mais puisqu'on a la chance de vous avoir au téléphone, vous êtes arrivé il y a quelques semaines, vous êtes un étudiant sénégalais, il faut bien le préciser que si on prend l'ensemble des pays subsahariens, les Sénégalais, vous êtes majoritaires hein, dans les universités françaises, donc comment ça se passe pour vous? Vous avez trouvé un petit boulot, vous avez un logement, comment se passe votre intégration à l'université?
Oui, comme vous l'avez dit, on est majoritaire, du coup, on bénéficie avant de venir un certain nombre d'informations qui nous permettent de nous préparer à l'avance. Et j'en ai bénéficié. J'ai parlé avec quelques-uns de mes amis qui sont là depuis quelques années et ils m'ont dit qu'il serait préférable que je vienne à l'avance. Donc, je me suis présenté à France un mois avant le début du cours. Et cela m'a permis de faire un certain nombre de démarches préalables et préliminaires avant que je puisse commencer. Maintenant,
Oui, allez-y, Amadi, on vous écoute.
Oui, vous avez parlé d'un boulot. Je n'ai pas encore trouvé un boulot. Du coup, je n'y pense pas maintenant parce que je suis là d'abord pour étudier. Ce qui me motive, c'est de mener à bien mes études. Donc, je ne ressens pas encore le besoin de trouver un boulot, si ce n'est pour les vacances scolaires et autres. Maintenant, du coup, on dit que le logement, c'est très difficile parce que moi, depuis que je suis là, ça fait 2 mois que je cours derrière le cours et que je ne parviens pas à avoir un logement pour l'étudiant.
Donc, vous êtes logé chez un compatriote, un parent?
Oui, pour l'instant, je suis chez un parent.
Ouais. Et comment vous allez faire pour vivre en tant qu'étudiant? C'est votre famille qui vous aide?
Oui. Donc, la majeure partie de mes charges concernant mes études sont financées par mes parents jusque-là.
Merci beaucoup en tout cas Amadi, vous avez bien posé les problèmes et les interrogations qui vous assaillent en tant qu'étudiant. On a aussi un message WhatsApp d'un étudiant guinéen qui a posté.
Je me nomme Suleiman Sall, je suis étudiant diplômé en lettres modernes à Conakry. Je suis vraiment très très curieux de poursuivre mes études supérieures en France, Inch'Allah, l'année prochaine. Ce qui me fait un peu de souci là-dessus, c'est le contrôle sur frais d'inscription que les universités françaises ont pu instaurer dans leur système. Donc, j'aimerais vraiment savoir exactement si toutes les universités le feront. J'avais écouté une émission, un Sénégalais qui étudie en France, mais il pleure parce qu'il travaille tous les jours pour pouvoir satisfaire ses besoins, les loyers, les taxes en même temps. Comment est-ce qu'on peut financer ses études? On laisse la famille pauvre en Afrique. Donc tout cela nous donne vraiment quelque chose de découragement et qu'on n'arrive pas à poursuivre les études. Vraiment, franchement. Nous demandons au gouvernement français de pouvoir supprimer cela pour nous, les étudiants qui veulent y aller étudier en France ou les étudiants qui sont là-bas et qui étudient, qui financent leurs études, c'est quelque chose de très, très difficile pour nous. Vraiment, c'est très, très difficile pour nous. Merci beaucoup.
Dominique Villoukbi, vous êtes responsable des relations internationales à l'Université Saint-Denis, Paris 8. Déjà, que vous évoquent ces témoignages?
Ben, ça, c'est des situations qu'on rencontre en permanence, c'est-à-dire que c'était déjà difficile pour certains étudiants étrangers, qui soient d'ailleurs, notamment hors Europe, hors Union Européenne, de venir...
45% d'étudiants africains dans les hors Union Européenne.
Voilà. Donc c'était déjà difficile avec les frais d'inscription identiques pour tous, les conditions de vie. Dans les grandes agglomérations Paris, le logement, c'est un vrai problème. Voilà, travailler, vivre, étudier, tout ça, c'est très difficile. Il y a beaucoup de gens qui décrochent aussi, d'ailleurs, à cause de ça. Et l'annonce quand même inopinée tout d'un coup au mois de novembre 2018, en plein début des processus de mise en place des recrutements pour l'année suivante. D'abord, ça a été un choc et il y a eu un effet d'annonce d'ailleurs que n'a pas réussi à endiguer les décisions d'une grande majorité d'universités françaises de ne pas les appliquer. Le message n'est pas passé, on a perdu énormément de monde.
Votre université a fait le choix de ne pas appliquer l'augmentation des frais d'inscription. Donc, comment c'est possible par rapport à un arrêté gouvernemental ?
Alors, la loi nous autorise à des exonérations qui jusque-là étaient sur critères sociaux pour exonérer des droits d'inscription les étudiants. On a le droit, normalement, d'aller jusqu'à 10% du nombre d'étudiants de notre université. Donc, jusqu'ici, les exonérations que nous pratiquions n'atteignaient pas ces 10%. Donc, il nous restait une marge.
Quand vous dites exonération, ça veut dire on supprime carrément les frais d'inscription ou...
Alors, il y a l'exonération totale, c'est-à-dire 0 centime, c'est sur critères sociaux. Voilà. Là, il s'agit d'une exonération partielle, c'est-à-dire du supplément des droits d'inscription pour les étudiants étrangers. C'est-à-dire, en gros, qu'ils vont payer, c'est-à-dire maintenir le principe d'égalité au niveau des droits d'inscription.
Ça veut dire qu'en refusant d'appliquer la hausse, est-ce que du coup, vous pénalisez des étudiants français pauvres ou pas ?
Bah, en principe, non, puisque les étudiants français pauvres peuvent solliciter une exonération auprès du service d'accueil. On a une maison de l'étudiant, on a un chargé de mission pour ça. Voilà.
Mais quand vous dites que les universités ont le droit d'exonérer 10% de leurs étudiants, ça veut dire qu'il y a un arbitrage entre des étudiants hors Union européenne et des étudiants français, par exemple, forcément ?
Pour l'instant, non. Mais il y a eu tout un tas de débats sur la question. On n'est pas tous d'accord, je dois le dire. Et effectivement, juste ce qui va se passer, les projections montrent que si on a pu le faire cette année, cette exonération, même si on a une grosse baisse, l'an prochain, on risque d'atteindre tout de suite notre quota de 10%. Et donc, le problème n'est que repoussé pour l'instant et il est compliqué.
Alors il y a une question d'un auditeur, Sarafa, qui est en licence d'histoire, il est à Lomé, il demande, est-ce qu'il y a des quotas par pays pour accéder aux universités françaises ? Est-ce que du coup, vous vous posez la question de privilégier, dans votre marge de manœuvre, là, d'exonération, de privilégier tel ou tel pays ?
Non, pas du tout, il n'y a pas de... Pour le moment, c'est absolument pas à l'ordre du jour... Il n'y a pas de quota. On a des chiffres, si vous voulez. Il y a des chiffres récurrents, des proportions de différentes nations, des gens qui viennent chez nous. Mais il est hors de question pour le moment qu'il y ait des quotas par nationalité.
Je le disais, les étudiants sénégalais, par exemple, c'est le pays majoritaire. Si on regarde l'ensemble des pays subsahariens qui viennent dans les universités françaises. Néanmoins, certains ont dit que l'arrêt du gouvernement français d'augmenter drastiquement les frais d'inscription, c'était clairement pour faire une sorte de ménage et donc de limiter la présence d'étudiants venant de pays très pauvres, étant déjà dans la galère pour assumer leurs études en France.
Ça a été très très mal perçu, ça a été perçu comme on ferme la porte, quelque chose de rejetant. Et les Sénégalais, effectivement, par contre les Sénégalais sont les mieux informés et ont été les plus proactifs, c'est les seuls dont le quota d'inscription monte cette année dans notre université. Mais ils ont fait un énorme travail et on a beaucoup communiqué.
Mais oui, il l'a dit d'ailleurs Amadi, hein, il a été très très bien informé
Les Sénégalais sont en pointe,
les autres étudiants.
Mais c'est un des pays qui est le plus qui envoie le plus d'étudiants en France, ils ont une courbe démographique qui est impressionnante, voilà. Mais il faut aussi parler de tous les étudiants du monde entier. Les Russes aussi, qui sont moins nombreux mais qui viennent régulièrement chez nous, leur nombre a chuté drastiquement. Je prends juste un exemple pour le contraste, pour qu'on ne se focalise pas uniquement sur l'Afrique.
Voilà. François-Olivier Sess, vous êtes à l'Université de Lille. Quelle est la politique de l'Université de Lille cette année ?
Alors nous, on a pris une position différente de mon collègue, mais Amadi vous a tout dit, hein, l'étudiant sénégalais, la vraie difficulté, on n'a pas voulu mettre les étudiants dans l'incertitude, puisque dès la deuxième année, nous n'aurions pas pu exonérer tous les étudiants, dans le cadre du quota de 10%. Donc notre politique, elle a été très simple. On s'est dit, de façon importante pour nous, c'est l'articulation master-doctorat. Donc on donne un droit à exonération partielle, c'est-à-dire frais de scolarité à un haut niveau des étudiants français, pour tous les étudiants non européens qui entrent à partir de cette session-ci. Donc nos étudiants master n'ont pas de droit différencié. Par contre, pour dire clairement aux autres étudiants, les étudiants qui rentrent en licence, on paye les droits différenciés, donc 2770 comme vous l'avez dit, sauf s'ils sont en grande difficulté sociale, ils peuvent faire appel à la commission qui, sur des dossiers au cas par cas, va regarder la réalité de leur situation sociale et exonérer les étudiants qui en ont besoin.
Bon, alors pour qu'on soit bien sûr que tout le monde a compris, vous avez privilégié les étudiants qui arrivent, qui sont nouveaux, qui arrivent en master, rien ne change, hein, donc ils ont un tarif très bas, 243 euros.
Le même que les Français.
Le même que les Européens. Et pour les nouveaux qui arrivent en licence, là, tout change quand même, hein, puisque ça passe à 2770 euros l'année universitaire, sauf demande d'exonération sur critères sociaux.
Oui, ce 2710, c'est le tiers du coût réel. Je pense que quand on fait la multiplication sur le coût antérieur, il faut regarder le coût réel pour l'État français.
C'est-à-dire le coût réel par tête d'étudiant qui est autour de 10 000 euros, c'est ça?
Oui, c'est 12 000 en master, 9 000 en licence.
Et qui est donc supporté par l'ensemble des contribuables en France, pas forcément français, mais en France.
En France, bien sûr.
Finalement, aujourd'hui, quand vous dites qu'il y aura des exonérations partielles, enfin sur critères sociaux, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir répondre à la demande de la totalité des candidatures qui répondraient en termes de critères scolaires, qui auraient des bons dossiers pour venir en licence, mais qui auraient de vraies difficultés sociales? Est-ce que là,
au jour d'aujourd'hui, on a les inscriptions sont closes, sauf ce qu'on appelle les inscriptions tardives. Donc, on a quand même un petit bilan. On a une baisse très légère du nombre d'étudiants inscrits. Non européens en première inscription, notamment au niveau L1 à l'Université de Lille. Donc le fait, on pensait que avec notre politique, la baisse serait très importante et elle est à peine plus élevée que le pourcentage de binationaux. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de baisse. On peut considérer qu'elle est
moins
15%,
non, c'est ça ?
Oui, moins 15%, mais notre baisse tendancielle, c'était moins 13%. D'accord. Donc on a une baisse réelle due à Bienvenue en France de 2 à 3%.
Donc en fait, ça n'a pas agi comme repoussoir finalement ?
Non. Donc j'ai 700 étudiants non européens qui se sont inscrits pour la première fois au niveau L, donc DUT, PEIP, licence, parce que c'est un peu plus large que la licence. On a une commission d'exonération donc, qui existe sur le modèle qu'expliquait mon collègue parisien. Mmh. Nous avons une centaine d'étudiants non européens qui ont demandé à ce que leur dossier soit examiné. On est en train de les instruire et on leur donnera une réponse par une commission ad hoc qu'on va faire à la fin du mois d'octobre.
Donc on ne sait pas encore réellement combien d'étudiants vous allez exonérer, alors qu'à Paris 8, tout le monde est exonéré. Et on est bien d'accord pour cette
année.
Mais
moi, ils savent clairement ce qui va leur arriver l'année prochaine. Amadi a dit les choses de façon très très claire. Et je pense que c'est important. En arrivant, ils savent ce qui leur arrive. Ils ne s'arrivent pas en étant exonérés a priori. Puis la deuxième année, parce qu'il y a le quota de 10%, on va être obligé de faire payer quelques étudiants ou certains étudiants, ce qui nous embêtait. Voilà.
On va en parler de 2020, bien évidemment, parce que les auditeurs qui nous écoutent et qui sont en Afrique subsaharienne aujourd'hui, qui ont un projet d'études, c'est pour 2020. C'est pour une arrivée 2020. Là. Sinon, ils seraient vraiment en retard pour l'année universitaire en cours. Et donc, forcément, les questions se posent. Orlane François, déjà, pour la rentrée universitaire, là, pour cette année, vous êtes présidente du syndicat majoritaire étudiant. Vous, votre syndicat, d'ailleurs l'ensemble des syndicats, en tout cas c'est la même chose pour l'UNEF, vous avez été toujours opposé à cette augmentation des frais d'inscription dès le départ pour les non-européens. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ?
Alors, en effet, c'est important de rappeler, je pense que l'ensemble d'une communauté s'est opposé fortement à la mesure, et c'est pas juste une opposition de principe, c'est parce que fondamentalement, il y a des choses qui sont très dérangeantes et très dangereuses pour l'université que de voir aujourd'hui ces frais d'inscription augmenter. Le constat, il est qu'on a une vraie incertitude, qu'on a un vrai flou de la part des étudiants. On a beaucoup d'étudiants qui nous contactent pour nous demander comment ça va se passer, quelles universités exonèrent pas, qu'est-ce qui va se passer dans un an. Et donc ça, c'est notre rôle de les accompagner. Mais le plus important, c'est en effet de se dire qu'est-ce qui va se passer réellement dans un an. Et ça, c'est un vrai sujet.
Mais là, déjà, sur les 70 ou 73 universités en France, combien d'universités appliquent réellement la réforme demandée par le gouvernement ?
Très peu, c'est moins d'une dizaine. Hein, environ 7 qui n'ont pas du tout mis en place d'exonération et qui ont appliqué quasiment à 100% aujourd'hui la mesure des frais d'inscription différenciés, en sachant, comme ça vient d'être montré, qu'il y a des universités qui appliquent de manière plus différente, soit des exonérations globales et massives, soit des exonérations sur certains types de publics, ou bien sur des cycles. Et après, dans les exonérations, il y a aussi beaucoup de différences. Des universités qui ont pris le pas directement de dire j'exonère sur tout le cycle, c'est-à-dire sur toute la licence ou sur tout le master pour les étudiants qui s'inscrit
pour rassurer l'étudiant.
Voilà, pour rassurer en disant voilà, si tu t'inscris maintenant, sache que tu seras exonéré jusqu'à la fin de ta licence.
On ne changera pas les règles du jeu.
Voilà, exactement. Et ça, c'était une bonne élément. Mais je pense qu'il ne faut pas aujourd'hui blâmer les universités, parce que les universités, entre guillemets, pour certaines, font ce qu'elles peuvent, parce que ça a été dit, il y a des quotas d'exonération qui ne doivent pas être dépassés. Aujourd'hui, il y a des universités qui, financièrement, ne peuvent pas exonérer les étudiants. Donc, il y a le travail dans les universités, mais c'est surtout la mesure nationale. Aujourd'hui, je pense qu'il faut rediscuter et de l'impact que celle-ci va avoir. Et juste pour revenir sur ce qui a été dit sur le coût d'une licence, le coût d'un diplôme. Alors oui, en effet, aujourd'hui, le prix a été posé à environ un tiers du coût réel. Et encore,
comme ça pour les Français aussi. Hein. Les Français ne le savent pas, mais ils payent une toute petite partie du coût de revient d'une année
à
l'université.
Exactement. Et l'argument qui est souvent donné, c'est oui, mais attention, les étudiants français, ou en tout cas qui sont domiciliés en France, payent des impôts, etc. Alors déjà, non, c'est faux. Il n'y a pas tous les Français qui payent des impôts aujourd'hui en France.
Oui, mais ils payent tous la TVA.
Comme les étudiants internationaux qui vont venir étudier sur le territoire français,
ils vont payer la TVA.
Ils vont payer, pour quand ils vont louer un appartement, une taxe d'habitation. Donc attention à ce discours de dire que les étudiants internationaux profitent du système. Non, c'est faux. Eux aussi payent des impôts, payent des taxes une fois qu'ils sont sur le territoire. Et puis surtout, ce qu'il faut se défaire un petit peu de l'idée, c'est qu'un étudiant international ne fait que coûter à la France. C'est faux. Un étudiant international, des études le montrent, des rapports l'ont montré, rapporte à la France. Quand aujourd'hui, c'est une dépense environ de 3 milliards d'euros pour le pays, c'est au final un gain de 4 milliards, parce que il y a l'emploi, il y a l'attractivité du pays, il y a les personnes qui vont consommer des produits. Voilà, donc c'est aujourd'hui, il faut se sortir de l'idée que les étudiants internationaux étaient un coût, mais c'est bien un gain tant financier que culturel.
Les étudiants en doctorat, du fait de la contestation sur cette réforme, les étudiants en doctorat, pour l'instant, ne sont pas du tout concernés par l'augmentation de ces frais d'inscription ?
Non, en effet, au milieu de la concertation, au milieu des négociations, une fois que l'annonce a été faite, on a réussi avec des organisations d'étudiants, de doctorants, à faire reculer le gouvernement sur ce point-là. Les doctorants ne sont pas concernés par l'augmentation des frais d'inscription globalement et nationalement.
Dominique Villoubi, à Paris 8 Saint-Denis. Le collègue à Lille disait que finalement, il n'y a pas eu d'effet repoussoir. Il n'y a pas moins d'étudiants hors Europe qui sont venus s'inscrire. Chez vous, où est-ce que vous en êtes ?
Le collègue, il n'a pas dit exactement ça. Il n'a pas donné les chiffres en master non plus. Mais en tout cas,
il y a une augmentation master. Je peux vous les donner si vous voulez.
Ah bah alors, c'est ceux qui ne sont pas chez nous qui ont dû aller chez vous, je pense. Parce que nous, c'est exactement l'effet inverse. Pour le moment, alors on ne peut pas donner de chiffres précis parce que les inscriptions validées ne sont pas tout à fait terminées encore chez nous. Mais je sais pas, je pense qu'il va y avoir une baisse de entre 30 et 40%.
C'est-à-dire moins 30% d'étudiants non européens qui se présentent à la porte de l'université Paris 8.
Alors attention, il faut savoir de quel chiffre on parle. Là, on parle des néo-entrants hors Union européenne. Oui. Dans notre établissement.
C'est ça.
Je ne sais pas si mon collègue de Lille.
Les chiffres sous les yeux, si vous les voulez.
Nous parliez bien de vos nouveaux étudiants qui arrivent pour la première
entrants.
Fois en France.
D'accord. Eh bien, nous, il y a eu un effet de réel, un effet performatif de la parole, finalement, et de la réforme, qui fait que bien que nous ayons annoncé assez vite que nous n'appliquerions pas pour cette rentrée, il y a eu un effet quand même dissuasif qui est très inquiétant, notamment au niveau du master.
Je peux vous donner les chiffres si vous le souhaitez, pour être très transparent. J'ai arrêté les chiffres à la dernière jour de la clôture des inscriptions officielles, hors inscription tardive. L'année dernière, sur les non-européens néo-entrants en master, nous avions 366 étudiants. Cette année, nous en avons 421. Après, donc j'ai une augmentation en pourcentage de 20%
alors,
à peu près.
Comment c'est possible ? L'université qui annonce qu'elle va augmenter les frais, elle n'a pas de baisse d'étudiants, et celle qui annonce qu'elle ne va pas augmenter les frais, elle a une baisse d'étudiants. Excusez-moi, mais moi, j'y comprends rien.
Mais alors, je pense qu'il faut aussi se sortir. Je pense qu'il faut aussi sortir un petit peu de ce débat-là. Alors, en effet, on est sur une première année d'application. Il y a eu des informations qui ont mal transité de qui exonère pas. Est-ce que je vais être exonéré tout du long ou pas ? Ce qui serait intéressant également, je pense, c'est de regarder le profil des étudiants qui arrivent aujourd'hui dans l'établissement. établissement, voir si c'est les mêmes profils qu'auparavant, etc. Et puis surtout que c'est une première année de réforme. Et puis surtout, je crois que l'information qui a avancé, c'est qu'aujourd'hui, la réforme avait pour but, techniquement, ce qui est annoncé par le gouvernement, c'était d'être plus attractif aujourd'hui sur le territoire, d'accueillir plus d'étudiants, etc. Et là, on se rend compte que... Alors, c'est un échec fondamental puisqu'on a eu soit des baisses dans beaucoup d'universités, soit une stagnation, voire une légère baisse.
François-Olivier Sass à l'Université de Lille, puisque vous dites que vous n'avez quasiment pas de baisse de candidature.
Une augmentation en master,
c'est honnêtement. Est-ce que vous voyez arriver du coup des Chinois et des Indiens pour remplacer les Africains?
Non. On a mis en place aussi, la réforme est plus large que la différenciation des frais d'inscription. Il y a une labellisation Bienvenue en France qui a été discutée, à laquelle la plupart des universités ont répondu et ont demandé et sont labellisées, même celles qui refusent d'appliquer. Et donc, il y a une question aussi d'accueil, de calme-travail sur le logement. Notre ami Amadi, au départ, a vraiment tout dit pour moi, notre ami sénégalais qu'on a entendu au départ. La vraie question, quand vous êtes un étudiant africain qui arrive à Lille, par exemple, c'est le logement. C'est la vraie question, c'est le logement. Donc, nous, on a mis en place une maison internationale de l'Université de Lille où on essaye d'accompagner les étudiants à trouver un logement main dans la main avec le CROUS, mais aussi avec le parc privé. Donc, il y a tous ces éléments d'attractivité, d'accompagnement. Et si vous regardez aussi, la plupart des grands pays européens ont fait les mêmes réformes comparables, l'Espagne, la Suède, on peut citer. La Suède a eu une baisse les 5 premières années avec une vraie politique d'attractivité derrière, d'accompagnement. Et il est très, très important qu'on fasse cet accompagnement. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu'on accueille mieux les étudiants étrangers. Il ne faut pas faire du chiffre, il faut faire de la qualité pour moi. Et on accueille relativement mal, faute de moyens. Ça, c'est une des vraies difficultés qu'on a. Donc, nous, il y a une politique derrière de redistribution aussi. Il y a des recettes financières qui vont arriver. On fera des bourses de mobilité. On accompagnera des étudiants en difficulté sociale avec cet argent. Et on va aussi gérer à la construction de logements, par exemple, qui est un vrai problème. Quand vous demandez votre visa, vous devez fournir une adresse en France.
Dominique
Donc
Villoubi,
il faut qu'on puisse...
Voilà. Alors, je vois Dominique Villoubi qui brûle d'impatience de répondre.
Effectivement, il y a un deuxième volet qui a d'ailleurs été annoncé dans un deuxième temps, qui est la labellisation Bienvenue en France. Okay.
Donc, améliorer les conditions d'accueil.
Absolument, et ça c'est absolument nécessaire. C'est absolument nécessaire. Et il y a un peu d'argent qui est mis, effectivement, pour ceux qui obtiennent le label. Les universités travaillaient déjà là-dessus depuis longtemps. Voilà. Et pour ce qui est des exemples étrangers, la Suède, ils ont quand même perdu 70% de leurs étudiants hors Union européenne.
Ça, c'est le chiffre de la Finlande, mais j'ai travaillé le sujet. C'est pas
voilà. Et en Allemagne, ils sont revenus aussi complètement en arrière. Donc les positions sont très contrastées. Et effectivement, en fait, le vrai choix, c'est le problème du financement des services publics, des universités, c'est comme les hôpitaux et la police d'ailleurs. Mmh. Et c'est où on trouve l'argent. Alors tout d'un coup, on nous dit qu'il y a un coût réel. Et tout d'un coup, on nous dit « Ah, mais vous payez que le tiers de ce que ça coûte. » Mais la question, c'est bien sûr ce que ça coûte, mais c'est quel est le modèle de financement.
C'est ça vraiment la question. Parce que ce discours-là, sinon on peut le tenir également sur les étudiants aujourd'hui français et européens. Un vrai problème de financement de l'université et nos étudiants français aussi étudient dans des conditions mauvaises. Nos enseignants travaillent dans des conditions qui sont mauvaises. Et aujourd'hui, si on rentre par la logique de se dire que ce mauvais financement doit être payé par l'étudiant, on fonce dans le mur, parce qu'on regarde ce qui s'est passé en Angleterre, on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on n'a pas envie, je pense, d'en arriver à là. En tout cas, nous, ce n'est pas le modèle qu'on défend de notre université.
Ce n'est pas le modèle que je défends non plus.
Une fois qu'on est rentré par la petite porte avec les étudiants internationaux, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça, c'est un vrai risque pour les étudiants
François-Olivier
français
et européens. Est-ce que, néanmoins, là, il y a quand même de l'argent un peu supplémentaire qui se profile pour votre université à Lille en faisant payer les non-européens dès l'arrivée en licence?
Bien sûr. Pour l'instant, comme on a été très prudent, on s'attendait à une baisse très forte des inscriptions, puisque c'est notre hypothèse. Elle est relativement faible. Donc, actuellement, pour l'instant, dans mon budget, j'ai mis zéro comme recette. Je ne m'en sers pas. Je vais m'en servir à partir de l'année prochaine pour faire de la redistribution.
C'est ce que j'allais vous poser comme question.
Tout le monde part d'un principe, je vais expliquer si vous me permettez, tout le monde part d'un principe que tous les étudiants non européens sont pauvres. Ça, c'est malheureusement faux. Il y a des étudiants non européens riches, il y a des étudiants non européens pauvres. Moi, ma vraie question, c'est comment est-ce que je peux, en faisant payer, parce que le décret l'autorise et le rend obligatoire dès l'année prochaine pour nous à cause du quota, comment avec l'argent d'étudiants qui ont les moyens, je vais réussir à accompagner des étudiants qui n'ont pas les moyens, et en particulier des étudiants d'Afrique subsaharienne. Et ça, c'est une vraie question. Donc moi, on a un plan de redistribution de cet argent qui va se mettre en place.
Mais alors, admettons, des étudiants internationaux qui ont en effet les moyens vont payer des frais d'inscription à 2700 euros. Des étudiants qui n'ont pas les moyens vont être du coup accompagnés par une bourse. Comment va être financée la bourse ? Par l'argent des étudiants internationaux qui sont, qui ont des moyens supplémentaires. Mais dans ce cas, on tourne
en rond. Par du mécénat, par un montage avec des entreprises.
C'est-à-dire qu'au préalable, on avait des frais d'inscription qui étaient les mêmes pour tout le monde, à frais bas, et qui permettaient à chacun de pouvoir venir. Aujourd'hui, on va se dire qu'on augmente des frais d'inscription. Du coup, certains ne pourront pas venir, mais on va les aider avec une bourse. Des frais d'inscription qui auraient été payés par des étudiants qui auraient les moyens de le payer. Donc au final, l'argent ne va pas servir à améliorer les conditions d'études, il ne va pas servir
là,
à construire
vous,
des logements.
Vous résumez
il va pas
ma pensée.
Mais alors, dans
c'est
ce cas,
pas exclusif, si vous me permettez.
Il faut,
c'est pas exclusif.
C'était ma question. En quoi cet argent supplémentaire va ruisseler sur l'ensemble de l'université ?
Il ne va pas ruisseler sur l'ensemble de l'université.
Il ne va pas ruisseler sur l'ensemble de l'université parce que c'est des chiffres relativement modestes. On a deux choses à financer avec cet argent, enfin trois choses. Améliorer l'accueil. Première chose qui est très importante. Deuxième chose, travailler à la remédiation et à l'accompagnement des étudiants non européens. On a des taux d'échec des étudiants non européens qui sont très élevés. Donc il faut qu'on les accompagne pédagogiquement avec une mise à niveau, un accompagnement méthodologique, scientifique et éventuellement en français. C'est une vraie question. Donc ça, c'est aussi une question très importante. Il vaut mieux qu'un étudiant, en ayant un petit peu, réussisse sa licence en 3 ans plutôt qu'il fasse 3 L1 et qu'il reparte sans rien. Moi, je pense que ça, c'est important. Et la troisième chose qui, à mon avis, aussi doit se travailler, c'est ce programme qu'on veut mettre en place de bourses de mobilité pour étudiants qui n'ont pas les moyens de financer leurs études en France et qu'on va accompagner. Et donc, comme ils ne vont pas être obligés de travailler à côté, moi, j'ai entre 30-35% des étudiants qui travaillent, ils vont pouvoir étudier dans de bonnes conditions et obtenir leur diplôme de licence, par exemple, en 3 ans ou de DUT en 2 ans.
Et on le sait, travailler à côté de ses études, c'est un vrai problème. C'est d'ailleurs en ça que Hamadi, étudiant sénégalais, est certainement très aidé par ses familles. Il nous disait que pour le moment, il ne souhaitait pas travailler à côté de sa licence de philosophie parce qu'il avait peur d'échouer. Hein. On le voit bien, il est anxieux en arrivant dans l'université française. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On donne la parole à Soumaïla qui est à Bamako, au Mali. Bonjour Soumaïla.
Bonjour Emmanuel.
On vous écoute, soyez le bienvenu.
Très bien, merci. Je crois que la représentante des étudiants a tout dit. Les arguments sont très clairs. Elle a répondu parfaitement, c'est-à-dire à mes interrogations. Moi, j'ai dit, l'avantage des études en France, il y en a deux. Déjà, le coût de l'inscription et la langue. Mais si aujourd'hui, on augmente le coût de l'inscription, beaucoup d'étudiants africains, non seulement vont apprendre d'autres langues et aller étudier dans d'autres pays. Un, la France perd énormément d'étudiants. Deuxième chose, la France est un pays francophone. Il y a la francophonie qui existe aussi. On ne peut pas venir dire à tous ces pays francophones-là, il y a une coopération entre nous, et d'une autre manière, on va aller boucher le passage pour dire on augmente les prix, comment on appelle, des inscriptions. Donc, il n'y a même pas d'argument par rapport au, comment on appelle, aux universitaires qui sont présents. Il n'y a aucun argument qui puisse expliquer cette augmentation. On augmente pour certains, on diminue pour certains, et le surplus qui a été exonéré pour certains, on ajoute à d'autres pour financer finalement, on tourne en rond, comme a dit la syndicaliste.
Et Soumaïla, vous par exemple, vous êtes étudiant à Bamako, dans quelle situation vous êtes par rapport
non,
à...
Non, je ne suis plus étudiant, moi je travaille déjà, j'ai étudié en France.
D'accord, donc vous n'êtes pas concerné alors. Concernant le risque, en fait vous évoquez le risque que la France se perde un certain leadership en attirant beaucoup moins d'étudiants africains. On peut vous répondre qu'avec 3,5 millions d'étudiants supplémentaires d'ici 2025 sur le continent africain, plus 72%, vous n'ignorez pas quand même que vous êtes un continent avec une démographie très dynamique. On peut imaginer qu'il y aura des talents africains pour toutes les universités du monde, y compris pour les universités françaises, si elles en veulent. Ça, on peut le voir de manière optimiste ou pessimiste, je ne sais pas. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir appelés, Soumaïla. Vous pouvez continuer de nous téléphoner, il nous reste peu de temps. 33 1 84 22 71 71. Un auditeur à Lubumbashi nous a posté, donc dans le sud de la RDC, nous a posté ce message. La France autrefois favorable à l'évolution intellectuelle africaine, aujourd'hui la hausse des frais, c'est la pierre d'achoppement de notre marche vers le renouveau du leadership africain. Voilà, donc on voit bien que les Africains certains responsabilisent la France pour ce choix. Aujourd'hui, finalement, comment vous envisagez, Dominique Villoukbi, la rentrée 2020? La question, elle a été posée dès le démarrage de l'émission. Vous avez fait le choix à Paris 8 Saint-Denis que tout le monde soit exonéré, c'est-à-dire de ne pas appliquer la hausse des frais d'inscription pour les non-européens. Donc de ne pas obéir à l'injonction gouvernementale. Qu'est-ce qui se passe l'année prochaine en 2020? Puisque, mettons, s'il y a 500 ou 1000 étudiants dont vous faites bénéficier l'exonération cette année, ils passent en deuxième année. S'il y en a 1000, il y en a 1000 l'année prochaine, plus les 1000 suivants qui arrivent, on double. On est d'accord, hein, on est à 2000. Donc comment vous faites? La cohorte ne fait que grossir.
Alors virtuellement, le système n'est pas viable à long terme. Les projections font que au plus tard, à la rentrée 2021, on sera saturé par rapport à ces 10%. Alors j'ai demandé qu'on mette en place un comité de pilotage avec tous les services concernés pour qu'on définisse une stratégie. Il y a eu un débat entre nous d'ailleurs, clairement, entre ceux qui disaient on dispense pour une année ou on dispense pour un cursus, licence ou master. Hein, c'est les deux cursus concernés. La décision, notre présidente a tranché pour on exonère pour tout le cursus, enfin, sauf évidemment abandon ou décrochage. Maintenant, je crois qu'il est trop tôt pour savoir ce qui va se passer à la rentrée 2020-2021. Je pense qu'on sera toujours en mesure, on va maintenant travailler, parce que d'abord, cette réforme, tout ça s'est fait dans l'urgence et la pression, et on va travailler et on va communiquer pour dire...
Vous demandez quoi concrètement aux autorités?
Aux autorités, je suis pas, c'est pas à moi de dire ce qu'on veut, mais c'est qu'on réfléchisse différemment. Ok, je veux dire, pourquoi choisir juste les étudiants hors Union européenne pour essayer de régler et de mal régler un problème de financement de l'université?
Parce que ça se fait ailleurs dans les autres universités étrangères, c'est ce qu'on vous répondra.
Ouais.
François-Olivier Sess, vous, où est-ce que vous en êtes? Comment voyez l'avenir?
Nous, on a pris une position qui est courageuse et pragmatique, qui est différente de celle du collègue. Je comprends son point de vue. Hein. C'est pas du tout une critique de ma part. Mais moi, l'année prochaine, si j'exonérais tout le monde cette année, dès 2020, je ne pouvais pas exonérer tous les étudiants, y compris des étudiants français et européens. Parce qu'on a une situation sociale dans l'Université de Lille. On a exonéré plus de 800 étudiants sur critères sociaux déjà cette année, qui sont pour la plupart français et européens. Donc nous, on a pris une position qui est de dire clairement aux étudiants, c'est pragmatique, voilà ce qui va vous arriver. En master, vous êtes exonéré pour 2 ans, sauf échec. En licence, a priori, vous payez, sauf difficulté sociale. Donc je suis dans une situation où moi, je n'ai pas de rentrée 2020 difficile. Je voulais réagir
aussi. En master, on est exonéré, sauf si on redouble. Hein, ça, par contre,
sauf
on
si on redouble.
Là, par contre, on paye plein. Et ça fait très mal, la facture.
Du tour de rôle.
Oui, Orlane, François, il nous reste quelques minutes. On vous écoute.
Je crois aujourd'hui qu'il est fondamental qu'on continue le combat sur cette mesure qui a été annoncée. C'est pas une mesure qui est ancrée dans une loi, donc le travail pour la faire retirer, entre guillemets, hein, plus facile. Donc nous, en tout cas, on va continuer à militer dans ce sens parce qu'on voit bien l'impact que ça va avoir. On voit bien l'impact que ça va avoir sur les publics qu'on va aujourd'hui accueillir sur notre territoire. Est-ce qu'on a envie d'être un pays qui accueille des publics variés, tant au niveau des origines sociales que des origines géographiques? Est-ce qu'on a envie de renoncer à notre attractivité et à notre travail de formation de ces personnes? Et puis surtout, est-ce qu'on a envie de rentrer dans un mode de financement qui est sur l'étudiant et pas sur une responsabilité collective, celle de l'État? Et aujourd'hui, c'est des priorités budgétaires qu'il faut inscrire dans le projet de loi qui arrive dès 2020.
Vous disiez tout à l'heure que pour vous, cette hausse des frais d'inscription pour les non-européens, elle était assurément dangereuse pour tous. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous craignez à terme?
Mais l'argument qui a été donné de dire que aujourd'hui, pour mieux accueillir, parce qu'il y a un vrai objectif à mieux accueillir des étudiants internationaux, il fallait augmenter les frais d'inscription parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Mais dans ce cas, l'argument-là, il va aussi tenir dans la bouche de certains pour des étudiants français ou européens, parce qu'en effet, actuellement, nos universités ne sont pas capables de bien accueillir des étudiants français et européens également. Donc qu'est-ce qui va se passer dans plusieurs années? On va dire, bon bah écoutez, on va augmenter les frais d'inscription pour tout le monde. Et je crois qu'on n'a pas envie de tomber dans cette idée-là de l'université en France. Et c'est une première porte qui s'est ouverte. En tout cas, nous, on fera tout pour la refermer dès demain et jusqu'à ce qu'elle soit refermée, en tout cas.
À à faire, à suivre en tout cas, parce que c'est pas gagné hein, pour la rentrée 2020. Merci à vous, Orlane François, présidente de la FAGE, donc Fédération des Associations Générales Étudiantes. Merci à vous, Dominique Villoubi, l'Université Paris 8 Saint-Denis. Et merci à vous, François-Olivier Cesse, à l'Université de Lille. Dans quelques instants, la pédopsychiatre Marie-Rose Moreau pour sa chronique Parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Every time I call you, you be downtown. Drinking all your bottles with your down crowd. Seeming like you only come around now. I bet you out now, but you know me. I've been getting jealous like you owe me. Drinking with the fellas, but I don't drink. And if you think you're sorry, baby, don't be. You don't owe me. I just need somebody to fill your memory. We ain't friends, but darling, we ain't quite enemies. I can't find nothing to fill this puzzle piece. But you know me, yeah. Promises you don't keep, no you don't keep. Hey, looking for the girl with the sweet heart and the bad ass when they come. Hey, looking at the bars and I tell them to fill my glass when they come. Hey, smoke marijuana, the ganja, the herb, and the grass when they come. Hey, you my puzzle piece and I can't feel it. Only call me when your words are slurred. Don't wanna believe the rumors that I've heard. Puzzle pieces, how you find a nerve. Girl, don't call me, you know I'm hurt. Yeah, every time I call you, you be downtown. Drinking all your bottles with your down crowd. Seeming like you already come around now. I bet you're out now, but you know me. Thinking about the pictures that I don't see. And all your friends are bitches, yeah, they lonely. You don't keep, no, you don't keep. Hey, looking for the girl with that sweet heart and a fat ass, but they can't. Hey, looking at the body and the talent and the fill my glass, but they can't.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs, c'est un rendez-vous hebdomadaire chez 7 milliards de voisins sur RFI, mais aussi des chroniques disponibles en podcast sur les plateformes de téléchargement. Avec vous, Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous dirigez aussi la revue transculturelle L'Autre, et là on est dans le dernier numéro d'une série sur l'adolescence, avec une question qui peut paraître tout de même assez provocante. Tous nos adolescents sont-ils LGBT? LGBT, on va le rappeler, ça veut dire lesbienne, gay, bi et transsexuel ou transgenre.
Alors effectivement, hein, c'est une question qui a fleuri dans les magazines français cet été, mais aussi...
Pas que les magazines français d'ailleurs,
non,
hein, outre-Atlantique,
aux États-Unis. Exactement, alors du coup j'ai découvert que c'était pas... Au début j'ai cru que c'était purement français, puisque quand même il y a eu plusieurs magazines qui ont lancé ce débat, et j'ai regardé les magazines anglo-saxons, effectivement j'ai vu que ça appartenait au monde entier. Et aussi progressivement, à ma consultation transculturelle, donc à Solène, à Paris, où je reçois des familles migrantes du monde entier, les parents inquiets me posent régulièrement cette question depuis quelques mois, hein. C'est quelque chose d'assez récent. Et quand un adolescent a des attitudes considérées comme pas dans la norme, eh bien les parents s'inquiètent, ils craignent que les réseaux sociaux et que la mondialisation favorisent cette multiplicité d'identités sexuées ou sexuelles et de revendications, et disent que dans le pays d'origine c'est tabou, ce qui augmente encore leurs inquiétudes.
Alors, lesbienne, gay, bi et transgenre, c'est devenu des vrais sujets de discussion entre les adolescents, entre les jeunes. Et il n'est pas rare de voir des jeunes qui se déclarent un peu de tout cela à la fois quand même.
Il y a deux choses nouvelles. La première, c'est que les adolescents expérimentent toutes sortes de sexualités. Et comme la société occidentale est moins répressive, globalement, ils peuvent se permettre ces expérimentations qui avant, éventuellement, était dans la tête, ouais. mais on passait pas à l'acte.
C'est ça. Ou du moins, on peut s'interroger publiquement.
On s'interroge
publiquement. Qu'est-ce que je suis sexuellement ?
On peut s'interroger et puis on peut faire des tests. Mmh. On peut essayer, on peut voir ce que ça nous fait. Parce que c'est ça, la question sexuelle. C'est pas seulement une question tout seul, mais c'est avec l'autre. J'essaie et je vois en retour ce que je ressens. C'est comme ça qu'il me l'explique. Et par ailleurs, il y a la deuxième chose qui change aussi par rapport à la génération d'avant, c'est une grande fluidité des identités sexuées aujourd'hui. C'est-à-dire, ce n'est plus oui ou non, tu appartiens au monde homosexuel ou au monde hétérosexuel, avec des murs infranchissables. Mais il y a des formes de passage d'une forme à l'autre, une sorte de reconnaissance entre une nécessaire adéquation entre ce que je ressens à l'intérieur de moi et ce qui est à l'extérieur, entre l'être et le paraître. Ce qui fait qu'on peut plus facilement accepter des identités multiples sans choisir dans un camp ou l'autre et des constellations qui associent parfois plusieurs identités considérées avant comme antinomiques. On ne pouvait pas être l'un et l'autre.
Oui, alors la question c'est que doivent faire les parents ?
C'est dur, hein, le métier de parent, hein, parce que là, je crois que les parents, ils sont vraiment bouleversés, chamboulés dans leur propre manière de se représenter ce que c'est que cette sexualité. Et les parents, ils ne peuvent qu'accompagner, c'est-à-dire ils ne peuvent qu'accepter. Il n'y a aucune autre manière de faire là-dessus. Comprendre que ce qui est en train de se passer pour les adolescents, c'est des expérimentations, des essais, des identités multiples et fluides. Et donc... les parents doivent le savoir, ils ne doivent pas trop s'inquiéter, ne pas juger, bien sûr, parce que juger, d'abord, il n'y a pas de raison de juger, mais en plus, ça fige les adolescents, ça les met dans des positions de provocation. Et en revanche, donc, ils peuvent les accompagner dans leur recherche si cela se présente. Et puis, il faut dire hein, que dans nos sociétés, que ce soit ici en Afrique ou ailleurs, la discrimination, elle existe encore, en particulier contre les jeunes garçons qui se disent homosexuels, qui le disent à leurs parents, que ce soit donc à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur, à l'école, au lycée. Cette discrimination, c'est dévastateur, ça peut conduire au suicide, hein, on le sait, il y a des études qui l'ont montré.
Et... Elle est plus grave, selon vous, que toutes ces interrogations qui émergent dans les sociétés sur à quel genre et à quelle sexualité j'appartiens.
Voilà,
l'exclusion est plus grave.
La discrimination, c'est ça qui est le plus grave. Mmh. Et c'est ça qu'il faut éviter, mais ça commence par l'intérieur de la maison. Parce que s'il y a une discrimination à l'intérieur de la maison, c'est ça qui va faire le plus mal aux enfants.
Et c'est ce qui va broyer les adolescents.
C'est ça qui les broie, c'est ça qui les met dans des positions insupportables. Et parfois, pour éviter l'insupportable, ils passent à l'acte. Donc, on voit que finalement c'est un sujet très sérieux, la sexualité des ados, que par ailleurs c'est aussi un sujet de fantasme pour les adultes. La sexualité, elle appartient à chaque génération et nous, ce qu'on peut faire, c'est leur permettre d'être et de devenir sans discrimination.
Marie-Rose Moreau, vous signez aussi pour le bien-être et la santé des jeunes chez Odile Jacob. Et on retrouve toutes ces chroniques sur les plateformes de téléchargement en podcast, la série sur l'adolescence et toutes les autres séries. Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. À bientôt Marie-Rose.
Au revoir.
Et voilà. Alors on dit quoi ?
C'est la voisine de la fin de la semaine qui nous rejoint dans le studio des 7 milliards de voisins. Bonjour Diarra Ndiaye.
Bonjour Emmanuel.
Au programme pour Alors on dit quoi ce week-end ?
Alors les jeunes qui s'engagent en politique, Emmanuel, à l'heure où beaucoup d'entre eux boudent les urnes, eh bien certains n'hésitent pas à s'investir dans des partis politiques en France comme en Afrique.
Tout simplement par principe, parce que je suis quelqu'un d'engagé pour la cause des autres, pour le bien-être de mon pays et de ma communauté. Vous savez, aujourd'hui, toutes les grandes décisions sont prises au niveau politique. Il était donc important pour moi de m'y engager tout simplement.
Mon engagement politique touche ses racines dans la crise post-électorale qu'a connue notre pays, parce que l'image que l'on a aujourd'hui de la politique, c'est les mensonges, des crises, des tromperies, ces pays, la guerre, etc. Alors qu'on peut faire tellement de bonnes choses avec la politique. Donc je me suis dit au lendemain de la crise qu'il fallait que je m'engage pour mon pays, pour le lendemain de ma patrie.
Mais qui a dit que les jeunes étaient dégoûtés de la politique, Diarra ?
Eh bien, on va prouver le contraire.
Exactement. Donc, le rendez-vous, la suite, c'est samedi à
11h10, temps universel sur l'antenne Afrique.
On va suivre ça. À très bientôt, Diarra.
Merci.
Et chez 7 milliards, bien sûr, il y a toute une équipe qui présente cette émission, qui prépare cette émission du lundi au vendredi. Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, il y avait Raphaël Lazizi aussi aujourd'hui au Standard Auditeur. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique des émissions. Et nous retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux. Vous aurez le menu de la semaine qui arrive. Lundi, 7 milliards de voisins, on parlera des nouveaux pères très investis auprès de leurs enfants. Alors une question très simple, les papas poules existent-ils vraiment? C'est à vous de répondre d'ici lundi.